Il est 19h30 en temps universel. Merci d'écouter Radio France Internationale en direct de Paris où il est 20h30.
Zéphirin Quadio.
Bonsoir à toutes et à tous. À la une, le retour de Donald Trump à la Maison Blanche. Le président américain élu en novembre dernier sera officiellement investi ce lundi. En Afrique, les attentes oscillent entre espoir et scepticisme. Pour rappel, Donald Trump avait qualifié les pays africains, je cite, de pays de merde. Nous parlerons aussi de l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu entre le Hamas et Israël. Une trêve accueillie avec un enthousiasme mesuré au Maroc, où depuis le début de la guerre, des manifestations de soutien aux Palestiniens sont régulièrement organisées. Et puis l'armée nigériane, encore une fois, sous le feu des critiques, après une nouvelle frappe contre des civils dans le nord-ouest du pays, région où les groupes criminels sèment la terreur. Le patron de l'armée de l'air a dépêché une équipe d'enquêteurs sur place. À la veille de l'investiture de Donald Trump pour son second mandat, les attentes des Africains oscillent entre espoir et scepticisme. Si certains réclament davantage de respect de la part d'un président qui, lors de son dernier mandat, avait qualifié les pays africains de pays de merde, d'autres estiment que le continent ne peut pas se contenter d'attendre. Pour Juste Kodjo, professeur de sécurité internationale à la New Jersey City University, l'Afrique doit abandonner une posture attentiste pour adopter une approche proactive.
Je crois que les Africains n'ont pas besoin d'attendre nécessairement. Ils doivent d'ailleurs, moi je dirais même d'ailleurs, ils doivent passer d'une posture attentiste à une posture proactive. C'est à eux vraiment de prendre le bâton et de faire bouger les lignes. Au plan politique, il y a certainement des leviers. Au sein des investisseurs, il y a certainement des leviers. Elon Musk est un acteur assez important, d'origine sud-africaine, même s'il est de race blanche, mais qui pourrait être intéressé, par exemple, par certains minerais rares en Afrique, en raison du type de business qu'ils mènent dans l'espace et les véhicules publics. Ce sont des secteurs où il y aura un grand besoin de certains minerais très rares qu'on ne trouve peut-être qu'en Afrique. Et donc, il appartient aux Africains de jouer sur des leviers de ce type-là pour se positionner un peu sur l'agenda de Trump en termes de priorité.
Un propos recueilli par Christina Okello. L'accord de cessez-le-feu entre le Hamas et Israël est entré en vigueur donc ce dimanche après un peu plus de 15 mois de guerre. En tout cas, depuis le début de cette guerre à Gaza, des manifestations de soutien aux Palestiniens sont régulièrement organisées au Maroc. Manifestations réunissant parfois des milliers de personnes. Le groupement d'action nationale pour la Palestine qui rassemble des formations de gauche et le Parti de la justice et du développement, parti d'obédience islamiste, a été à l'origine de plusieurs de ces manifestations. Mais certaines sont aussi totalement spontanées. Dans le royaume chérifien, Mathias Reynal, l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza ce dimanche est accueillie avec un enthousiasme mesuré chez les partisans de la cause palestinienne.
Fer de lance du mouvement pro-palestinien au Maroc, le groupement d'action nationale pour la Palestine, Ahmed Wehman, fait partie de son secrétariat. Pour ce responsable, l'annonce du cessez-le-feu a été un soulagement.
On l'a accueilli avec joie parce qu'il doit mettre fin aux souffrances des Palestiniens, au génocide et à l'épuration ethnique.
C'est l'aboutissement de plusieurs mois de mobilisation. Au Maroc, le mouvement pro-palestinien a organisé des manifestations d'ampleur, notamment à Rabat en octobre dernier. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont alors afflué pour commémorer le début de la guerre à Gaza. Mais Ahmed Wehman préfère rester prudent.
On n'est pas rassuré vu la nature et l'histoire des crimes sionistes de l'entité d'occupation. Pour les Marocains, la Palestine est une cause nationale. On prépare des activités parmi lesquelles des sit-ins et une marche nationale.
La date de cette marche nationale n'est pas encore fixée, mais elle devrait être organisée dans les prochains jours. Mathias Reynal, Casablanca. RFI.
L'Est de la République démocratique du Congo, toujours en proie aux violences d'intenses combats observés ce week-end dans plusieurs villages du territoire de Calais, dans le sud Kivu, affrontement entre le M23 soutenu par le Rwanda et l'armée congolaise appuyée par les Ouazalendo. L'armée nigériane est, elle, très critiquée après une nouvelle frappe contre des civils dans le nord-ouest du pays, région où des groupes armés sèment la terreur. Le patron de l'armée de l'air a envoyé une équipe d'enquêteurs dans la région de Zamfara, où au moins moins 16 membres d'un groupe d'autodéfense locale ont été tués dans un bombardement aérien samedi 11 janvier. Cette bavure n'est que la dernière en date d'une longue série. Le jour de Noël, 10 civils avaient déjà été tués par l'aviation nigériane dans un village de l'état de Sokoto. En 2023, une erreur de frappe avait fait au moins 85 victimes, dont une majorité de femmes et d'enfants, lors d'un rassemblement religieux dans la région de Kaduna. Des erreurs de l'armée aux origines multiples selon Oluwole et Jawale, chercheurs à l'Institut des études de sécurité.
Alors, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ces erreurs de frappe. D'abord, il faudrait voir quel type de matériel est utilisé par l'armée de l'air et si cette technologie n'est pas trop datée. Il y a aussi la question de la formation et de l'entraînement des soldats eux-mêmes. S'ils repèrent des mouvements récurrents de population, des rassemblements suspects, cela peut éveiller la suspicion des militaires. Et peut-être que la coordination avec les groupes d'autodéfense locaux est mauvaise. Or, ce sont eux qui sont censés réunir les informations sur le terrain en premier lieu. Comment, dès lors, est-il possible qu'ils soient eux-mêmes des victimes collatérales de ces frappes aériennes ? Enfin, il ne s'agit pas d'un conflit conventionnel. Les groupes terroristes utilisent des tactiques de guérilla. Ils traversent facilement les frontières, qui sont poreuses dans la région, ce qui complique beaucoup l'action des militaires nigérians dans la zone.
Propos recueillis par Lisa Fabien. Au Sénégal, 600 000 personnes vivent de la pêche artisanale et le secteur est en tension depuis des années à cause de la raréfaction des ressources. En janvier dernier, la coalition pour une pêche durable avait fait signer une charte à 13 candidats à la présidentielle. Près d'un an après, ses membres organisent en ce moment une caravane pour récolter les doléances des acteurs de la pêche et rencontrer les autorités pour porter leur message. Reportage, Juliette Dubois.
Sur le quai de pêche de Wakam, des pêcheurs rafistolent leurs filets au soleil et les membres de la Coalition nationale pour une pêche durable, ou CONAPED, scandent leur message de sensibilisation. Objectif, faire connaître leur charte, mais aussi récolter les témoignages des pêcheurs et transformatrices dans les régions du pays.
La première des choses, c'est avant tout la rareté des ressources qui est là.
Abdoulaye Ndiaye est secrétaire général de la CONAPED.
Dans la zone nord, on nous a beaucoup parlé de l'impact pétrole-gaz dans leur zone de pêche, parce que déjà c'est quelque chose qui est réel. Au niveau de l'Ompoule Fastboy, on nous a parlé de la descente des navires de pêche industrielle dans la zone de pêche qui est réservée à la pêche artisanale.
Parmi les 13 recommandations de la charte, on trouve la réduction de la pollution marine, l'audit de la flotte industrielle et plus de transparence. Le président Bassirou Diomaye Faye l'avait ratifié lorsqu'il était candidat. La CONAPED reconnaît qu'il y a déjà eu des améliorations. Alassane Dieng est le secrétaire général du groupement des armateurs et industriels de la pêche au Sénégal.
On avait demandé au niveau de la charte qu'il y ait une évaluation avant toute signature du nouvel accord. Cette évaluation, effectivement, est en cours. On n'a pas encore reçu les conclusions. Donc du département, même si déjà il y a, disons, une pause par rapport aux accords de pêche.
Mais certains points doivent encore être améliorés.
Il y a les questions de transparence et de surveillance et de recherche. Parce que c'est à la base des résultats de la recherche qu'on peut véritablement prendre des décisions.
La caravane prendra fin le 23 janvier à Mbour et la coalition prévoit d'apporter un nouveau rapport au ministère de la Pêche. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Et puis en football, alors que viennent de débuter les derniers matchs de la phase de groupe en Coupe de la Confédération, on vous donnera les résultats dans notre prochaine édition, bien sûr. Mais en attendant, Thomas de Saint-Léger, un mot des joueurs africains qui brillent aussi sur les pelouses d'Europe. Et ils sont nombreux chaque week-end, Thomas, en particulier aujourd'hui.
Oui, surtout en Ligue 1 française, comme souvent d'ailleurs. 100% de buteurs africains dans deux des quatre matchs du jour. À Saint-Étienne, le Nigérian de Nantes, Moses Simon, avait ouvert le score avant qu'Augustine Bokai, le Ghanéen des Verts, ne lui réponde un partout. Score final, un partout aussi entre Reims et Le Havre. Marshall Munetsi, le Zimbabwéen, a frappé le premier pour les Rémois. Et c'est Aruna Sangant, le défenseur et capitaine sénégalais du Havre, qui a permis à son équipe de mettre fin à une série de 6 défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Autre Sénégalais en vue, beaucoup plus en vue d'ailleurs depuis qu'il a quitté la Ligue 1 et Marseille précisément, Illiman Diaye, auteur de son 4e but de la saison avec Everton, but important. Les Toffees l'emportent 3-2 face à Tottenham. Toujours en Angleterre, ça ne va pas du tout pour Manchester United et sa légion africaine, Nusair Mazraoui, André Onana, Amad Diallo, la pire équipe de l'histoire du club. Déclaration ce soir de l'entraîneur Ruben Amorim après la nouvelle défaite de United 3-1 à domicile face à Brighton. Le jeune Gambien Yacouba Minté a marqué d'ailleurs pour les Seagulls qui sont 9e du classement de Premier League. 8 points devant Manchester United, 13e seulement.
Merci Thomas de Saint-Léger. Il est 20h40 ici à Paris. Merci de rester à l'écoute de Radio France Internationale.